Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat, de point de vue. C'est votre 18-20 dans une poignée de secondes, le journal, bien sûr, avec les annonces de Jean Castex à la mi-journée. Dans 20 minutes, mon invité, Philippe Amouyel. Professeur de santé publique au CHU de Lille, 18 000 nouveaux cas de Covid dans les dernières 48 heures, une hausse de 150% en une semaine. Comment expliquer cela? On va voir cela avec lui. 18h30, le débat des grandes voix. On va revenir sur le scandale Pegasus. Y a-t-il eu des failles de sécurité au sommet de l'État? Et puis, on reviendra sur cette quatrième vague de contamination. Vous réagissez bien sûr au standard 39-21. Je vous attends avec beaucoup de plaisir. Et puis à 19h15, votre club des idées. Ce soir, gros plan sur ces entreprises qui n'ont pas connu la crise pendant cette pandémie. Elles ont tiré leur épingle du jeu. 39-21, vous prenez là encore la parole. Si vous êtes patron, si vous êtes entrepreneur, si vous avez réussi finalement à vous adapter à cette crise 39-21. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
On est dans la quatrième vague. La clé, on la connaît, il faut vacciner. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous.
5 millions de rendez-vous supplémentaires pour permettre aux Français de se vacciner, de freiner la progression de l'épidémie. Avec le variant Delta, le nombre de cas de contamination explose et les services hospitaliers pourraient se retrouver saturés dès la fin de l'été.
Le village de Plan-de-la-Tour rassemblé en ce moment même pour rendre hommage à Doriane, la jeune femme tuée dimanche d'une balle dans la tête par l'homme avec qui elle avait eu une brève relation. Les habitants ont voulu témoigner leur soutien à la famille.
À le centre de la Chine en alerte rouge, un an de pluie s'est abattu en 3 jours. Des torrents de boue s'abattent sur une métropole de 10 millions d'habitants et un barrage menace de s'effondrer. Correspondance à suivre dans ce journal.
La cérémonie d'ouverture aura lieu dans moins de 2 jours, mais les épreuves, elles, ont déjà commencé. Tokyo se part doucement de ses couleurs olympiques.
La bourse, le CAC 40 termine ce soir en forte hausse de 1,85% à 6464 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Thierry, c'est la dernière belle journée pour demain. Comme ces derniers jours, il faudra attendre que la grisaille matinale se dissipe au sud de la Garonne, on aura aussi quelques nuages bas qui gagneront les côtes méditerranéennes.
Le point complet à la fin de cette édition.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le pic épidémique de la quatrième vague qui traverse actuellement la France est attendu pour la fin de l'été. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi sur le pass sanitaire.
Le ministre de la Santé qui précise que 21 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. Une situation qui inquiète le gouvernement. Jean Castex l'a d'ailleurs clairement exprimé à la mi-journée lors du journal de 13h sur TF1. Premier ministre qui l'a redit, l'objectif est encore d'accélérer sur la vaccination.
96% de tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux
n'étaient pas vaccinés.
La clé, on la connaît, c'est pas tout à fait nouveau, mais la contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous dans cette période. C'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août.
Mais avec quel objectif? On a bien compris, vous mettez l'accent sur la vaccination, mais l'objectif chiffré, c'est combien?
J'ai dit 40 millions de primo-vaccinés à la fin de ce mois, on y est bientôt.
On y est.
Oui, sauf que c'était 40 millions fin août. Oui. Donc on a, et 50 millions fin août.
Jean Castex au journal de 13h sur TF1.
Et cette intervention a également été l'occasion pour le Premier ministre de détailler les mesures du pass sanitaire qui sont entrées en vigueur aujourd'hui, Hélène Terzian.
Oui, d'abord, il y avait une interrogation quant à l'usage de ce pass dans les écoles. Là-dessus, Jean Castex a été très clair. Le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les établissements scolaires. Le gouvernement préfère accélérer la campagne vaccinale pour les 12-17 ans. En revanche, le pass est donc bien exigé depuis ce matin pour accéder aux lieux de loisirs, de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Ce sera le cas aussi à partir du 1er août pour accéder aux restaurants et au café. Charge donc aux responsables de ces établissements de contrôler ce pass à l'entrée. Le Premier ministre a en revanche précisé que les gérants de ces établissements ne seraient pas chargés de la vérification de l'identité des personnes qui les présentent. Ce sera du ressort des forces de l'ordre. Des nouvelles mesures qui nécessitent une période de rodage, une tolérance d'une semaine sera accordée pour faire de la pédagogie, a rassuré le Premier ministre. Viendra ensuite le temps des sanctions. Pour rappel, les restaurateurs et patrons patron d'établissement concerné risque 1 500 euros d'amende s'il ne contrôle pas le pass sanitaire de leurs clients à l'entrée. Au bout de 3 violations, elle passera à 9 000 euros.
Hélène Terzan, dès le début du mois d'août, le pass sanitaire sera donc également obligatoire dans les bars et les restaurants. Hélène Terzan vient de nous le dire, les restaurateurs devront s'assurer que leurs clients possèdent bien le leur. En revanche, ils n'effectueront pas de contrôle d'identité.
Un assouplissement salué par Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration.
Nous sommes soulagés, bien évidemment. Bien entendu, nous ferons les contrôles du pass sanitaire. Mais pour autant, nous ne serons pas tenus d'assumer un rôle de police comme le voulait au départ le projet de loi. Nous ne sommes pas en mesure, encore une fois, d'exiger et que faire devant un client récalcitrant qui ne veut pas vous présenter sa carte d'identité. Donc c'est très important. Et alors maintenant, il nous reste à discuter la situation des terrasses. Nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de contrôle du pass sanitaire sur les terrasses, dans la mesure où d'abord, un, c'est en extérieur, et deux, c'est totalement irréaliste de penser qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, assurer ces contrôles, alors même que les clients arrivent en terrasse, s'installent sur les terrasses. C'est extrêmement difficile de contrôler tout ça.
Et Didier Chenet, président du GNI, avec Clément Le Saffre pour Europe 1. Concernant les vaccins contre le Covid-19, cette avancée en Afrique, celui conçu par Pfizer-BioNTech, sera produit directement au Cap en Afrique du Sud dès l'année prochaine, ce qui permettra de fournir au continent 100 millions de doses par an.
18h06 également dans l'actualité ce soir, ce rassemblement qui a lieu en ce moment même à Plan de la Tour dans le Var, en hommage à Doriane, retrouvée morte dimanche.
La jeune femme de 32 ans a été tuée d'une balle dans la tête. Le principal suspect est l'homme avec qui elle avait entretenu une brève relation et qui a effectué 2 jours de cavale dans les Alpes-Maritimes avant d'être retrouvé mort hier à Gréolières. Les habitants de Plan de la Tour sont donc rassemblés devant la mairie du village pour saluer la mémoire de Doriane et s'associer à la douleur de la famille. Frédéric Michel.
Oui, de nombreux bouquets de fleurs et 2 grandes photos de Doriane posées sur les marches de la mairie du Plan de la Tour. Depuis quelques minutes, l'hommage à cette jeune mère de famille a débuté sur la place ombragée de la mairie où se sont réunies plusieurs centaines de personnes dans le silence et le recueillement. Les yeux sont rougis, l'émotion très forte. Ces 2 habitantes tenaient à être présentes.
On a déposé des fleurs, bien sûr. Elle travaille un peu partout, donc voilà, elle aidait beaucoup les personnes âgées. Je pense qu'elle a été très 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 appréciée. Hein. C'est bouleversant, et puis c'est tragique quoi, ce qui est arrivé. Surtout qu'elle laisse une fille de 11 ans en plus, c'est horrible.
Je suis venue pour elle, sa petite fille, sa famille et ses amis. Et même sans la connaître, voilà, ça touche quoi, énormément.
À l'instant, 1 minute de silence vient d'être observée. Des prises de parole sont en cours. Le du village a pris la parole. Âgée de 32 ans, Doriane était très appréciée dans cette commune du golfe de Saint-Tropez. Elle était inséparable d'un groupe d'amis aujourd'hui très affectés et que l'on voit en pleurs tenter de se soutenir avec des membres de la famille. Tous entourent sa fille, à peine âgée de 11 ans, et qui ne reverra plus sa maman.
Frédéric Michel à Plan de la Tour dans le Var pour Europe 1. Ce drame dans le Finistère, 2 fillettes de 4 et 6 ans ont été retrouvées mortes à leur domicile de Relecq-Kerhuon. Leur mère a été hospitalisée. Les circonstances des décès ne sont pour le moment pas connues.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'ouvriront le 8 septembre prochain. Un procès gigantesque, 1800 victimes, 20 accusés. 14 assisteront à l'audience, parmi lesquels Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos.
Un procès gigantesque également par sa durée et qui a encore été allongé. Il s'étalera sur 9 mois au lieu de 8. L'audience se tiendra donc en pleine campagne présidentielle et des élections législatives. Une inquiétude pour les victimes qui craignent une récupération politique. Écoutez, Arthur Desnouveau, survivant du Bataclan et président de l'association Life for Paris.
On va avoir le procès pendant toute la campagne présidentielle et après, c'est-à-dire pendant la campagne des législatives. Ce qui va donc faire un calendrier très chargé en actualité qui peut venir parasiter le procès. En 6 ans, on a vu tout un tas de récupérations politiques, tout un tas de justifications de lois sécuritaires par les attentats du 13 novembre et la nécessité que ça ne se reproduise plus. On a vu des débats sur les routes des migrants à travers l'Europe, qui était aussi ramené aux attentats. Et donc, on sait bien que tous ces thèmes-là vont être abordés pendant le procès, qui vont donc être probablement repris sur les réseaux sociaux par les candidats politiques ou leurs proches. Et que donc, ça va venir compliquer la sérénité du procès.
Arthur Dunouveau, président de l'association Life for Paris, avec Gladys Laffitte pour Europe 1. Un Britannique arrêté en Espagne aujourd'hui à la demande des États-Unis, il est soupçonné d'avoir participé au piratage de 130 comptes Twitter de personnalités en juillet dernier, parmi lesquels ceux de Barack Obama, de l'actuel président américain Joe Biden ou encore ceux d'Elon Musk et de Bill Gates.
Gros plan à présent, Sophie, sur cette situation catastrophique en Chine. Il est tombé dans le centre du pays l'équivalent d'un an de pluie en seulement 3 jours.
Est-ce qui a provoqué de violentes inondations sur la ville de Zhengzhou qui compte 10 millions d'habitants. Au moins 25 personnes sont mortes. La plupart ont été noyées par des torrents de boue qui ont englouti le métro de la ville. Un barrage menace également de céder. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 200 000 personnes en Chine. Le correspondant d'Europe 1, Sébastien Le Belzic.
Toute la journée, des centaines de camions militaires ont fait la navette pour évacuer plus de 200 000 personnes. 3 000 soldats ont été déployés sur zone et d'autres sont en train d'arriver. Une véritable course contre la montre alors que les eaux ne cessent de monter, comme l'explique ce militaire.
Avec mon détachement, nous avons évacué plus de 500 personnes déjà. On a commencé à réparer les digues et les réservoirs qui étaient détruits, mais d'après la météo, il va continuer de pleuvoir comme ça pendant au moins 2 jours.
Des torrents d'eau et de boue se sont abattus sur la ville de Zhengzhou, 12 millions d'habitants, l'équivalent de 6 mois de précipitations en à peine une heure. C'est du jamais vu en Chine. Tous les regards se tournent maintenant vers le barrage de Yiretan, sur le fleuve jaune. Une brèche de 20 mètres a été détectée et le barrage peut céder à tout instant. Dans le métro hier, des scènes de panique. Des milliers de voyageurs ont été pris au piège dans des rames inondées en quelques minutes. Ils se sont retrouvés bloqués avec de l'eau jusqu'aux épaules. Ils ont pu être évacués au bout de 4 longues heures d'attente. Mais le cauchemar continue alors que la pluie continue de tomber cette nuit sur la province du Renan. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
L'Allemagne également a connu des inondations meurtrières la semaine dernière avec près de 170 victimes. Des inondations qui coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros aux assureurs, selon la Fédération allemande du secteur.
Dans 2 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo avec 33 disciplines cette année, dont 6 nouvelles comme le karaté, le surf ou encore l'escalade.
Et avant d'allumer la flamme olympique, les épreuves, elles, ont déjà commencé. Les premiers matchs de football féminin ont eu lieu tout à l'heure et c'est le softball, une version féminine du baseball, qui a ouvert le bal ce matin, Simon Rubin.
Ouais, c'est le début avant le début, effectivement, avec le softball, sport très pratiqué au Japon. Un début de compétition symbolique dans la ville de Fukushima, dévastée par un accident nucléaire il y a 10 ans. Premier match remporté par les Japonaises dans un stade vide. Stade avec un peu de public pour le foot et une première surprise, les Américaines championnes du monde balayées par la Suède. Et puis le Brésil qui a gagné son match également avec, dans son équipe, l'une des doyennes de la compétition, la joueuse Formiga, qui dispute ses 7e Jeux Olympiques. Et puis, en ce moment même, ça y est, les athlètes français notamment convergent tous vers Tokyo. Les équipes françaises de handball viennent d'arriver et la délégation du judo a quitté son camp de base. Et vous l'entendez, elle a quitté son camp de base donc à l'extérieur de Tokyo. Il y avait quelques supporters japonais. Le personnel de l'hôtel qui était là pour accueillir et dire au revoir à cette équipe de France de judo. Les gymnastes, les représentants aussi de la voile ont déjà commencé à s'entraîner sur les sites des épreuves. Et puis, il y a le Covid qui continue d'être découvert parmi les délégations. Un pongiste de l'équipe tchèque a été testé positif. C'est le 3e cas au sein de la délégation de République tchèque. On a aussi appris 2 forfaits. La skateboardeuse néerlandaise Candy Jacobs et la championne chilienne de taekwondo Fernanda Aguirre. Forfait à cause du Covid.
Merci Simon Rubin. Et pour suivre les épreuves et remises de médailles, n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien sur Europe 1. Dès samedi de 13h à 14h, le Club Tokyo du service des sports d'Europe 1. Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, notez que la ville de Brisbane en Australie accueillera les JO de 2032. Seule en lice, elle a été désignée aujourd'hui par les membres du CIO, Thierry.
Merci beaucoup Sophie Tusson. On vous retrouve bien sûr à 18h30,
oui, à tout à l'heure.
Pour l'essentiel de l'info. La météo à présent, Marlène Duré, on ne change pas une équipe qui gagne.
du bleu dans le ciel, du bleu à perte de vue.
C'est trop chaud là.
Dès les premières heures, oui c'est vrai, qu'il a, surtout que demain on aura un vrai pic de chaleur. On va parler des températures dans un instant. Oui. Juste pour rappeler que comme ce matin dans le sud-ouest, nous aurons encore des entrées maritimes. Ce sont, vous savez, ces nuages qui viennent de la mer. Donc ça va concerner bien une bonne partie de l'Aquitaine. Ça déborde sur le Gers et le Haut-Pyrénées. Donc nuages bas ou brouillard, ce sera du gris. Et puis au fil des heures, Ça se dissipe dans les terres, mais la grisaille peut se montrer tenace en bord de mer. Et puis, on aura aussi un petit peu, comme ces derniers jours, un petit risque d'averse hein, sur les Pyrénées, plutôt sur la partie est de la chaîne pyrénéenne. Un petit vent d'automne à 40 km à l'heure. Et puis, si on cherche bien dans le ciel, ouais, on peut trouver des nuages de beau temps entre le Pays de l'An, Picardie et la Moselle. Et
les températures.
Les températures. Bon, on y va direct. Oui. Je voulais dire que les orages allaient arriver vendredi et samedi. Ça. Voilà, fallait en profiter.
Chaud,
il fera encore chaud demain. Il fera encore chaud. Température équivalente à celle d'aujourd'hui. Ouais. Avec comme prévu donc cette hausse dans le sud-ouest. Allez, la minimale, 25 degrés plutôt du côté de Cherbourg. Nous aurons 26 sur la côte basque et les côtes d'Armor à Paimpol, par exemple. 28 à Caen, Reims, Nancy, Thonon-les-Bains. 29 à Chalon-sur-Saône et Strasbourg. 30 degrés à Paris, Bourges, Clermont-Ferrand. 31 à Brest, encore, hein, beaucoup de chaleur en Bretagne. 31 à 35 sur les plages de l'Atlantique. 21 à 37 près de la Grande Bleue. On pense évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent et qui étendront leurs serviettes. Et puis,
les chanceux, les
36 à Nîmes. Et des pointes à 37-38 degrés. Vous savez où ça? En Midi-Toulousain.
D'accord.
37 à Toulouse, 38 à Cahors.
Ah ouais, bon courage.
Voilà. Et puis après,
merci,
ça dégringole.
Merci Marlène. 18h30 pour un nouveau point complet.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, des nouvelles mesures pour stopper cette quatrième vague. Oui, mais lesquelles? On en parle avec mon invité Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Rendez-vous dans 2 minutes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h17, je reçois mon invité professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir Philippe Amouyel. Philippe Amouyel, est-il présent? Bonsoir docteur. Visiblement, il n'est pas avec nous. La connexion n'est pas, pour le moment, établie. Philippe Amouyel, dites-moi quelque chose. Écoutez, je vous propose qu'on marque une courte pause et puis on va retrouver le docteur Philippe Amouyel sur Europe 1 dans un instant. A tout de suite.
IKEA. Et voilà notre nouvelle coloc. Là, c'est ton salon et aussi ta chambre. Et ici, c'est mon salon et hop, aussi ma chambre.
Oh, c'est le plus grand 35 mètres carrés que j'ai jamais vu.
Boostez votre rentrée et vos mètres carrés jusqu'au 19 août avec la carte gratuite IKEA Family. Le canapé convertible d'angle Free Eten est à 399 € au lieu de 449. Plus d'informations sur IKEA.fr.
Quelle heure il est là?
Il est bientôt 13h.
Allez, une dernière longueur et on retourne au bureau?
Ok, d'accord.
La natation rend les pauses d'âge meilleures. Cette semaine chez Decathlon, pour l'achat d'une paire de tongs Olayan 120 print à 5 €, la deuxième paire est à moins 50%.
Pendant l'anniversaire Casino,
priorité au bon plan. Aujourd'hui
et aujourd'hui seulement
chez Géant
et supermarché Casino.
Profitez de 30% de remise sur toute l'alimentation et l'hygiène bébé.
Moins 30% sur le lait, les petits pots et même les couches et lingettes. C'est super.
C'est Géant.
Chez Casino, notre priorité, c'est vous.
Pour votre santé, évitez de grignoter. Détails sur géantcasino.fr et supercasino.fr.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Voici donc avec nous le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Merci
bonsoir
d'être avec nous ce soir dans Europe Soir. 21 000 nouveaux cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, une hausse de plus de 150% une semaine. Nous n'avons jamais connu cela, dit Olivier Véran. Jean Castex, de son côté, a dit que nous étions en pleine quatrième vague. Pour vous, le constat est évident, il est également clair?
Oui, on est dans une quatrième vague. Et ça, depuis maintenant 3-4 semaines, on a un nouveau variant qui a une dynamique différente. Il est beaucoup plus contagieux, qui est en train de reprendre une partie de l'énergie épidémique qu'on avait connue et qui avait baissé, fort heureusement, les dernières semaines de juin.
Philippe Amouyel, à 13h, Jean Castex a parlé de mesures de freinage possibles, comme la fermeture plutôt de certains lieux. Est-ce qu'elles seront acceptées par la population des départements concernés en pleine saison estivale?
Alors ça va être difficile, mais néanmoins on voit qu'il va y avoir des poussées épidémiques qui sont particulièrement importantes dans certains départements. Et si on laisse courir comme ça l'épidémie, on risque de toute façon, de manière précoce, d'avoir des retombées sur les vacances. Donc il est vraiment important de prendre de manière ciblée, comme ça a été fait dans les Landes, dans les Pattes-des-Landes, avec une vaccination réactive, des mesures qui permettent d'endiguer en certains points l'épidémie. Mais elle va progresser de toute façon.
Vous êtes surpris par la violence de ce variant Delta?
Alors non, parce que les nouveaux variants n'ont de sens que s'ils apportent quelque chose de plus au précédent. Or, ce qu'ils apportent de mieux, c'est cette transmission beaucoup plus importante. Ils vont plus vite. C'est une vraie course contre la montre, contre ces variants. Et le seul moyen de les ralentir et de les stopper, c'est bien sûr la vaccination.
Mais on a le sentiment d'une course contre la montre qui finalement ne s'arrêtera jamais.
Si, elle s'arrêtera une fois que soit la population, les gens seront vaccinés, soit ils auront été malades. Donc on aura atteint ce seuil d'immunité qui fera qu'il y aura beaucoup moins de multiplication de ces variants et donc beaucoup moins d'apparition de nouveaux variants.
Ouais. Aujourd'hui, 56% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. 70% des adultes, 45% est totalement vacciné. Le président Macron avait promis de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés. Est-ce qu'on peut encore mettre en place des mesures de restriction qui seront forcément mal accueilli?
Ça va être difficile. Ça va être difficile. On n'est plus du tout dans les situations des premières, deuxième ou troisième vagues où on n'avait pas d'autre outil que ces mesures de restriction. Là, on a la vaccination. Donc l'enjeu, c'est de faire de la restriction qui soit localisée là où les foyers sont, mais surtout d'avoir une politique proactive et de vaccination et également de diminution de la circulation comme l'est le pass sanitaire, par exemple.
Professeur, est-ce que cela veut dire qu'il faut s'attendre à une explosion de cas comme au Royaume-Uni actuellement qui a franchi la barre de 50 000 nouvelles contaminations par jour?
Alors peut-être qu'on ira jusqu'à 50 000, peut-être au-delà. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'en limiter l'impact, parce que l'impact est en fait l'impact sur les hospitalisations et les réanimations. Mmh. C'est ça qui crée la difficulté et la crise sanitaire. Donc on va voir d'ici 2 à 3 semaines comment réagissent nos hôpitaux en fonction des vaccins, des vaccinations qui sont en cours, et peut-être qu'il faudra prendre à ce moment-là d'autres mesures.
Quand on continue, à regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, justement, ils rouvrent tout, plus de restrictions malgré cette hausse exponentielle de cas. Même si les hospitalisations augmentent, il compte 4000 patients souffrant du Covid-19 et admis à ce titre et 551 réanimations. Est-ce que cela veut dire que la hausse des cas ne submergera pas les hôpitaux, plus les hôpitaux?
Alors écoutez, on va voir. Il faut voir que le Royaume-Uni, lui, est vacciné bien plus que nous en deuxième dose. Il atteint à peu près 55 à 60%. Donc l'impact hospitalier est inférieur. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse atteindre ces personnes fragiles qui malheureusement viennent nourrir les services d'hospitalisation et de réanimation pendant l'été, afin que l'impact qui est décalé d'à peu près un mois par rapport au Royaume-Uni, donc devrait intervenir fin août, puisse être réduit.
Philippe Amouyet, je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs de vaccination à 50 millions de primo-vaccinés fin août. Est-ce que cela suffira à ralentir la progression du variant Delta ?
Probablement, en particulier le problème de la saturation des hôpitaux. Alors 50 millions, c'est du primo-vacciné, donc la question va savoir, il va falloir encore 3 à 4 semaines avant qu'on puisse avoir une bonne couverture en 2 doses. Donc, mais on peut espérer bien réduire. De toute façon, on n'aura pas d'autre choix, comme je le disais au début. Soit on est vacciné, soit malheureusement on tombe malade. Donc à terme, il faudra probablement envisager quelque chose qui soit une couverture nationale obligatoire par la vaccination.
On a le sentiment que l'exécutif lâche du lest sur le pass sanitaire. Les responsables d'établissements recevant du public devront le demander, mais ne vont pas vérifier l'identité. Est-ce que vous regrettez, vous, ce choix de ne pas l'appliquer strictement, d'abandonner finalement la posture de fermeté qui était celle du président Macron lors de son allocution il y a quelques jours ?
Je crois que même si on a une bonne méthode de prévention par l'intermédiaire de la fermeté, si on n'arrive pas à l'appliquer parce qu'elle n'est pas acceptée, c'est pas une bonne mesure de prévention. Donc il est vraiment important, de créer ce qui nous avait manqué un peu sur la fin du mois de juin, une prise de conscience qu'on n'est pas sorti d'épidémie, de bien montrer que cet outil sert à maintenir une économie, on n'est plus dans les phases d'épidémie 1, 2 ou 3 qu'on a connues, et qu'on incite ainsi les gens à se faire vacciner le plus vite possible pour pouvoir bénéficier de ce pass et de certains avantages des vaccinés, comme par exemple de pouvoir tomber le masque dans certaines circonstances.
Est-ce que cela vous inquiète, ces mouvements de non-vaccination? Il y a encore des manifestations qui sont prévues dans tout le pays le week-end prochain.
Moi, ce qui me réjouit surtout, c'est de voir que près de 3,5 millions de Français ont décidé de se faire vacciner et que bien d'autres encore vont les rejoindre. Maintenant, la notion de personnes qui ne veulent pas être vaccinées, c'est vrai pour tous les vaccins. On les retrouve bien sûr pour les vaccins Covid. On a beaucoup d'indécis et notre rôle maintenant, c'est de les convaincre que c'est la meilleure solution.
Et comment? Qu'est-ce que vous leur dites? Que finalement, il n'y a pas d'autre solution?
Au début, non, pas tout à fait. J'essaie d'écouter pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils ont des répulsions pour certaines raisons, parce que peut-être ils ont l'impression que ça a été trop vite, ils ont l'impression qu'ils vont avoir des conséquences, qu'on leur cache des choses. Et tout l'enjeu, c'est d'être le plus pédagogique possible et vraiment d'aider. Et surtout, c'est l'exemplarité et la personne de confiance. C'est-à-dire que si c'est moi qui dis ça ou si c'est un politique, ça conviendra pas, ça convaincra pas Monsieur X ou Monsieur Y. Mais si Monsieur X ou Y, c'est un de ses proches, c'est son médecin traitant, c'est son pharmacien habituel, là, ça aura plus d'impact.
Mais ça veut dire que vous sous-entendez qu'il y a eu défaut d'information, défaut de pédagogie ?
Je pense que la vitesse d'information, enfin la vitesse de désinformation pour le moment est supérieure à la vitesse d'information. C'est là encore une course contre la montre. Je pense qu'au début, on n'a peut-être pas assez fait attention à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Maintenant, la main est en train d'être prise essentiellement parce qu'on a de plus en plus de gens vaccinés. Et à un moment, on va avoir, mettons, 60%, 70% des gens vaccinés qui vont se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai encore des restrictions ? Parce que 30% de la population ne veut pas se faire vacciner. » Donc une inversion des tendances, vaccination, non-vaccination.
Philippe Amouyel, le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée à la présence d'un pass sanitaire. Est-ce que c'est raisonnable selon vous ?
Alors raisonnable, oui, parce que si le pass sanitaire est bien vérifié, bien contrôlé, qu'il n'y a personne qui, hors pass sanitaire, est dans la pièce, et dans la salle, pardon, excusez-moi, c'est ce qui peut se passer déjà dans la sphère privée. Si vous êtes vous-même vacciné et que vous êtes avec d'autres personnes vaccinées, vous pouvez tomber le masque. Le risque est extrêmement faible. La question va se poser de savoir si, par exemple, des adolescents qui vont aller au cinéma en même temps que d'autres vaccinés, qui n'ont pas les mêmes obligations parce que leur vaccination a commencé beaucoup plus tard, au mois de juin, il faudra peut-être attendre. Je crois qu'il faut être pour le port responsable du masque, bien comprendre à quoi sert un masque et savoir le faire tomber quand il faut et le garder quand on a un doute.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de paradoxe dans tout ça ? Il y a le ministre de la Santé qui donc met en place cette mesure, qui dit que cette mesure va améliorer le quotidien des Français. Et dans le même temps, on voit plusieurs municipalités qui imposent à nouveau le masque. On va les citer, la Côte-Normande, Charente-Maritime, à Toulouse, à Saint-Malo, à Boulogne-sur-Mer, au Touquet, toutes les communes des Pyrénées-Orientales, à Osgore, à Dax, à Cap-Breton, à Biscarros, dans l'Hérault et à Calvi en Corse. C'est pas paradoxal, ces deux mesures ?
Alors en fait, vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des villes côtières, des villes qui accueillent du public, surtout pendant les vacances.
Avec les touristes, et, bien sûr.
Avec le tourisme, bien sûr, ça a une certaine logique. Et si on prend l'exemple du Touquet, qui est proche de Lille, on se rend compte que ce ne sont pas toutes les rues. Ce sont les rues qui sont généralement le plus bondées, les rues les plus commerçantes et les marchés. Donc c'est pas complètement idiot d'envisager ce genre de choses et à chaque fois d'avoir ce que j'appelle un port du masque responsable. C'est-à-dire que les gens se rendent compte maintenant, maintenant qu'on sait comment le virus se transmet, que dans certaines circonstances, il est important d'avoir un masque. Et d'autres, non.
Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Grand merci à vous. Merci docteur.
Merci à vous.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, le fil info, puis les grandes voies Pegasus. Y a-t-il eu manquement au sommet de l'État? Et puis la situation sanitaire qui flambe, on en reparle. 39-21, vous prenez la parole, vous êtes les bienvenus. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
21 000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures. L'épidémie continue de progresser. Olivier Véran annonce le pic de la quatrième vague pour la fin de l'été et craint la saturation des services hospitaliers. Et pour éviter un scénario similaire à ceux déjà connus, le gouvernement veut encore accélérer sur la vaccination. Jean Castex annonce l'ouverture de 5 millions de nouveaux créneaux dans les deux prochaines semaines et vise désormais 50 millions de primo-injections d'ici fin août. Jean Castex qui a détaillé les mesures du pass sanitaire qui est entré en vigueur aujourd'hui avec l'obligation de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif dans les musées, cinémas et salles de sport. À partir d'août également dans les bars et restaurants mais sans contrôle d'identité. Autre annonce, il n'y aura pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires. De violentes inondations en Chine, l'équivalent d'un an de pluie est tombé en 3 jours sur la ville de Zhengzhou dans le centre du pays. Au moins 25 personnes sont mortes. Un barrage menace de rompre. 200 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Et puis c'était aujourd'hui le début des épreuves olympiques à Tokyo avec le football féminin et le softball. La cérémonie d'ouverture, elle, aura lieu dans 2 jours.
Merci Sophie Tussaud. Nouvelle édition complète bien sûr à 19h. Marlène, durée la météo, il faut profiter parce que demain ce sera la dernière journée sous le soleil.
Hein. Exactement, avant l'arrivée des orages prévus pour vendredi et samedi. Alors le temps, oui, va tourner à l'orage en avant En attendant, donc une belle journée pour ce jeudi avec toujours ces grisailles au sud de la Garonne en matinée. Ça va se dissiper évidemment dans les terres. Ces grisailles peuvent résister en bord de mer, hein, sur le littoral aquitain. Et puis des petites averses qui peuvent se déclencher également à l'est des Pyrénées. Du côté des températures, eh bien, ça continue à monter dans le sud-ouest. On attend jusqu'à 37-38 degrés en Occitanie et notamment dans le midi toulousain. 37 à Toulouse, 38 à Cahors. La minimale, 25, ce sera pour Cherbourg. Ailleurs, on attend 26 à 36. 26 à Biarritz, 30 à Paris, 30 à Lyon, nous aurons 32 à Nantes, Tours et Perpignan, 35 à La Rochelle et 36 à Nîmes.
Et ce week-end, c'est foutu. Hein.
Bah, si vous aimez les orages, c'est parfait.
Okay. Merci Marlène, on fait un nouveau point à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on ouvre le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio, Jeannick Halimi, rédactrice en chef au Parisien. Bonsoir Jeannick.
Adjointe, merci.
Adjointe, bon. Désolé pour vous.
Bonjour, écoutez ça. Nos bodies perfect. Hein.
Raphaël Steinville, rédacteur en chef.
Tout court,
chez Valeurs Actuelles. Merci à vous d'être présents. Allez, on va commencer par parler un peu par ce scandale Pegasus, avec des failles éventuelles peut-être de sécurité au sommet de l'État. C'est la question en tout cas qui se pose après les révélations du consortium de journalistes sur l'espionnage possible d'un des téléphones portables d'Emmanuel Macron, mais aussi de 14 ministres par le logiciel d'une société israélienne Pegasus, donc pour le compte du Maroc. Jeannick Halimi, est-ce qu'il y a eu des failles, selon vous, possibles de sécurité au sommet de l'État ?
Écoutez, moi je dirais que la question peut se poser, mais autant la question peut se poser, autant si ce n'est pas moi qui vais donner une réponse définitive aujourd'hui. Et j'entends quand même, à part... peut-être quelques polémistes, que c'est très compliqué, y compris pour des experts, en tout cas en l'état, de nos connaissances à nous, hein, de
sûr.
Nos connaissances
bien
à
sûr.
Nous, et sous réserve de révélations ultérieures, d'affirmer aujourd'hui qu'il y a un scandale d'État qui ferait d'Emmanuel Macron potentielle victime, un responsable finalement d'un scandale d'État, puisqu'il y aurait eu une incurie ou une... Une légèreté de la part du chef de l'État. Encore une fois, en l'état actuel, nos connaissances et des miennes, on ne peut pas l'affirmer. Mmh. Rappelons tout de même ce que l'on sait aujourd'hui, très rapidement, hein, c'est qu'on ne sait pas quel est le téléphone qui a été hacké. Est-ce que c'est le privé ou le public? Et s'il a été hacké, de quelle façon? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone apparaît sur un listing, mais est-ce qu'il y a vraiment eu captation d'informations confidentielles et de sécurité nationale? Là, pour le moment, en tout cas, personne ne nous l'affirme officiellement.
Raphaël Steinville parlait de légèreté. On sait qu'Emmanuel Macron possède plusieurs téléphones sur lesquels il a installé des applications de messagerie comme Telegram pour échanger avec ses proches ou des journalistes. On sait aujourd'hui donc qu'elles sont vulnérables. Est-ce qu'il y a eu une naïveté au sommet de l'État, Raphaël Steinville?
En fait, moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a de plus troublant et de plus inquiétant aujourd'hui, c'est de penser qu'un certain nombre de responsables, de hauts responsables politiques, est-ce que ça va jusqu'à Emmanuel Macron, ce n'est pas encore avéré, continuent à utiliser ces applications alors même que l'on sait depuis des mois que leur cryptage n'est pas absolument garanti et qu'un certain nombre de logiciels permettent de craquer ces téléphones. Ouais. La légèreté, on l'évoquait il y a quelques secondes, c'est aussi que les plus hauts dignitaires de l'État ont à leur disposition un certain nombre de téléphones cryptés, pour le coup, sécurisés, et qu'ils n'utilisent pas forcément,
c'est ça,
parce qu'ils sont encore familiers, habitués, attachés
à leur smartphone. C'est plus facile et plus sympathique de servir de son smartphone.
Exactement.
Habituel.
C'est contraignant, sachant qu'un certain nombre de ces téléphones cryptés, pour pouvoir appeler, vous ne pouvez appeler qu'un certain nombre d'autres téléphones cryptés, et donc ça limite les connexions.
Mais ça veut dire qu'il faut revoir le protocole et le rendre un peu plus sévère, ou obliger finalement ces ministres à utiliser ces téléphones sécurisés?
C'est en fait, je pense que la première des choses, c'est de prendre conscience qu'on est dans un environnement, et quand bien même on a l'impression d'avoir plein de d'États amis et même ces alliés potentiels nous espionnent. Il y a encore peu de temps, on apprenait que la NSA avait surveillé via le Danemark les communications d'Angela Merkel. Donc, quel que soit les cas de figure, quels que soient les dirigeants, on sait que potentiellement ce sont des cibles et donc il est important, il est même nécessaire, il est vital pour la sécurité de l'État que les plus hauts responsables prennent les mesures qui s'imposent pour préserver un certain nombre de secrets, mais pas que.
Jeannick Halimi, du Parisien. Raphaël vient de soulever un point important. En effet, on se dit, finalement, ces cyber-attaques, elles peuvent venir de la Chine, de la Russie, mais qu'un État ami prenne le contrôle du téléphone du président français, ce n'était pas véritablement un scénario envisageable.
Alors, encore une fois, moi, excusez-moi, mais moi, je veux faire preuve d'humilité. Vous affirmez, pardon Thierry, des choses qui ne sont pas démontrées, pardonnez-moi.
L'enquête est
prennent
en effet
le contrôle d'un téléphone à haute importance nationale de la part d'un pays ami, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'affirmations, pardonnez-moi Thierry, qui ne sont pas démontrées.
Pour l'instant démontrées.
Pour le moment.
Bien sûr.
Donc, attention, ce n'est pas pour le moment, encore une fois, l'affaire Wikileaks qui... sur plusieurs années, nous a démontré qu'il y avait possibilité effectivement de hacker différents mails au plus haut niveau et où c'était des informations, alors là pour le coup, véritablement des vrais documents, pas des numéros de téléphone avec d'éventuels captation de conversations ou peut-être effectivement c'est un smartphone, d'email, etc. Pour le moment, on n'en a pas la preuve. En revanche, Wikileaks, il y avait des documents véritablement de haute sécurité, notamment les derniers documents, c'était sur la guerre d'Irak et de Syrie. On n'en est pas là. Ouais. En revanche, là où je vous rejoins, c'est vrai, et vous aussi, je parle à mon confrère de Valeurs Actuelles, c'est vrai qu'il y a un risque énorme, y compris de la part de pays amis. On se souvient que les États-Unis, vous l'avez dit, je crois, pardonnez-moi, avaient tenté d'hacker les mails de l'Allemagne, de la France, de pays effectivement alliés. Il ne faut pas être naïf. Ce risque existe, mais je pense aussi, et les experts le disent, que malheureusement, le zéro risque en matière de technologie de haut niveau, y compris en matière de secret défense d'État, ce zéro risque n'existe pas.
Mais il ne faut pas être naïf non plus. La France également,
bien sûr,
utilise les mêmes méthodes.
Bien sûr.
Et quand bien même ce n'est pas dit, ce n'est pas, ça n'a pas vocation d'ailleurs à être qu'il y ait une communication là-dessus. Mais il y a encore quelques mois, je crois, c'était dans Marianne, c'était cet excellent journaliste Valdiguier qui faisait une enquête sur un logiciel développé par les services de sécurité intérieure qui permettait de faire exactement ce que le logiciel de Pegasus permet d'obtenir aujourd'hui.
Avant de faire une première pause, je voudrais qu'on écoute nos auditeurs 3921. Bonsoir Stéphane de Versailles.
Bonsoir. Bonsoir à vous.
Merci de nous avoir contacté. Je vous écoute sur cette affaire, ce scandale Pegasus.
Justement, c'est un petit peu comme la conquête spatiale. Avant, c'était des agences d'État qui espionnaient les citoyens et les autres pays. Et puis maintenant, on a donné à des sociétés privées une sorte de délégation pour envoyer des satellites civils ou militaires dans l'espace au nom des pays. C'est un peu la même chose avec l'espionnage aujourd'hui.
C'est vrai.
Parce que ce sont des sociétés privées, mais alors ces sociétés, elles existent, on sait ce qu'elles font, on sait où elles sont situées. Je veux dire, on est en train de faire les étonner, mais qu'est-ce qu'on s'attendait que ces sociétés, elles faisaient quoi? On savait très bien qu'elles avaient des moyens d'aller espionner sur des téléphones. Google, Apple a laissé faire, les moyens considérables qu'ils ont ne sont pas suffisants pour arrêter ces sociétés. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on m'explique un petit peu pourquoi on laisse des téléphones qui sont des véritables passoires Google, avec Android et Apple, alors que des petites sociétés privées auraient des moyens, plus importants que des États, plus importants que Google, plus importants qu'Apple. Il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question de est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à ce que ça soit des passoires? Est-ce que les États n'ont pas tout intérêt? Est-ce que là, aujourd'hui, on ne joue pas un petit peu les surétonnés, on surjoue un petit peu la surprise, tout simplement parce que ce n'est pas bien, parce que c'est en fait un allié ou éventuellement quelqu'un qui était dans le même camp. Mais sinon, ça ne surprend personne. Et après, vous faites le choix, malheureusement, d'utiliser des produits comme Internet et des applications qui sont à risque, mais là je suis pas plus étonné que ça, je m'étonne plutôt qu'on soit étonné quoi.
Réflexion intéressante, merci à vous Stéphane de nous avoir contacté bien sûr au 39 21. On marque une pause, on continue à en parler avec vous, 39-21, dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h41, on continue à parler de ce scandale Pegasus ce soir avec Jannick Halimi du Parisien et Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles. L'ancien patron des renseignements français, Bernard Squarcini, était ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à 8h15. Il disait clairement que le Maroc n'était pas à l'origine de l'espionnage d'Emmanuel Macron. Raphaël Stainville.
Oui, j'ai entendu, comme beaucoup, les affirmations de Bernard Squarcini.
Ouais.
Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de doutes. On sait qu'on est dans une guerre, que le simple fait de désigner comme étant l'État ou un certain nombre de services comme étant ceux qui sont à l'origine de ces attaques, ça vaut quasiment condamnation. Il faut être très prudent en la matière et avant de s'aventurer à désigner les uns comme étant à l'origine d'attaques malveillantes, il faut vraiment aller creuser. Et en fait, on le voit dans ces affaires que tout le monde, tous les États, voire votre auditeur l'évoquait également précédemment, un certain nombre d'entreprises aussi ont des intérêts à pouvoir éventuellement espionner et aspirer à un certain nombre de communications de dirigeants. Donc il faut être très prudent avant de pouvoir désigner...
Et cette prudence d'ailleurs, on la sent vraiment du côté de l'Élysée. Hein. Les ministres n'ont pas le droit de parler d'ici jeudi. Oui, on sent l'embarras de l'Élysée sur le sujet. Un seul communiqué, si ces faits sont avérés, ils sont graves. Hier soir, ici même, on avait Franck Riester qui, mot pour mot, répétait les mêmes propos que ce communiqué. À la mi-journée sur Europe 1, il y avait le ministre de l'Agriculture de Normandie qui répétait aussi les mêmes propos. On sent bien la ligne, finalement, c'est pas de vague. Pour l'instant, on enquête, on verra bien. Si jamais ce cas est avéré, c'est bien sûr très grave.
Alors, pour le moment, pas de vague, parce qu'encore une fois, il faut que toutes les informations dont nous parlons depuis tout à l'heure soient confirmées, toutes, y compris la réalité même de la captation d'informations. Encore une fois, rien, pour le moment, vu les informations que, en tout cas, nous, journalistes, nous avons. Hein, j'espère que les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement et les ministres en ont un peu plus. Donc, effectivement, rien ne prouve que l'État marocain et le roi, finalement, hein, soit responsable.
Lui-même était sur les listes.
Lui-même, d'ailleurs, était sur les listes. L'État marocain dément avoir toute responsabilité dans ce domaine. C'est effectivement un allié des Français, des Occidentaux, dans différents terrains de conflits dans le monde. Mais il est vrai aussi qu'il y a quelques années, les relations sont un petit peu tendues entre la France et le Maroc, du temps de François Hollande, qui a voulu resserrer les relations avec l'Algérie, qui est l'adversaire historique du Maroc. Donc voilà, il y a quelques vagues tout de même, mais si ce n'est pas l'État marocain, il se pourrait aussi, parce que c'est ce qui circule, n'est-ce pas, que ce soit, sans preuve pour le moment, l'agence de renseignement marocaine. L'équivalent de la CIA ou des renseignements françaises ou de la CIA américaine. Donc, il faut y aller moderato. Pour le moment, il n'y a pas, par exemple, de rappel d'ambassadeur. On est, vous avez raison, très prudent. Et je pense qu'on fait bien de l'être.
Allez, on change de sujet. On va bien sûr parler de cette quatrième vague. Le Premier ministre était l'invité du 13h de TF1 aujourd'hui, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire crucial qui s'est penché sur l'explosion des contaminations de Covid-19 en France. 21 000 cas ce soir, en hausse de 150% une semaine. Ça sent pas bon tout de même, Raphaël Steinville.
Alors, moi je suis toujours très prudent dans la manière dont on utilise ces chiffres. C'est-à-dire que, bien évidemment, on voit que le virus continue de circuler, que le Delta
très
aujourd'hui, c'est très
rapidement.
Le Delta, visuellement, est beaucoup plus contagieux. Mais lorsque l'on parle de cas, il y a une sorte de confusion qui s'opère immédiatement dans l'esprit, c'est que un cas, on a l'impression que c'est un malade. Et donc, il faut malgré tout, et on voit très bien comment ces chiffres sont agités pour nourrir, donner un écho plus fort à la volonté du gouvernement de poursuivre et d'accélérer cette campagne nationale.
Oui, enfin, à l'instant, on avait le professeur Amouyel du CHU de Lille qui disait exactement la même chose. Il constate bien que les chiffres sont là.
Pareil, dans les hôpitaux, on voit qu'il y a un frémissement dans les admissions en réanimation. Pour autant, on n'a pas l'impression de revivre les mêmes épisodes que la France a pu connaître ces derniers mois. Et alors, est-ce que ce sont les effets de la vaccination? Est-ce que c'est le fait que ce soit l'été? Mais il y a un alarmisme, en tout cas, c'est mon sentiment qui est partagé aussi par un certain nombre de... alors, je ne vais pas dire experts, parce que le mot a de moins en moins de sens, mais de personnes que vous interrogez, ayant connaissance un petit peu de ces sujets-là, qui sont prudents et qui ne sont pas dupes aussi que ça alimente la machine de l'État pour accélérer la vaccination.
Bien sûr. Ouais,
moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas si c'est tant mieux, mais j'en sais rien. Là où je vous rejoins, effectivement, c'est que même en cas de pic de contamination dont parlent les pouvoirs publics et les experts, qui pourrait avoir lieu à la fin août ou début septembre, il est effectivement possible, voire probable, qu'on n'atteigne pas les chiffres en termes de malades, d'hospitalisation et encore pire, de réanimation. Là, je vous rejoins, grâce notamment, bien sûr, à l'effort de vaccination.
Et pire, le nombre de morts aussi.
Mais, et bien sûr, évidemment. À la fin, le nombre de morts. Mais là, où vous parlez à l'alarmisme, moi, j'ai tendance à parler de prévention. Alors, quand on fait de la prévention, que les chiffres ne sont pas au rendez-vous parce que c'est de la prévention, on dit que c'est de l'alarmisme.
Oui.
Et quand on ne tire pas les sonnettes d'alarme, on dit quelques mois plus tard qu'on n'a pas fait preuve de bonne gestion et qu'on a manqué d'anticipation. Donc je pense que c'est quand même compliqué. Prenons acte tout de même que dans les 96%, même si le chiffre peut être effectivement battu en brèche, en tout cas une grosse majorité des nouveaux contaminés ne sont pas vaccinés. Et donc...
Pour autant, est-ce qu'ils sont malades ? En fait, c'est ça le plus
important.
Oui,
mais alors là, c'est pas parce que quand vous dites malade, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas les symptômes, c'est ça que vous dites.
Ouais.
Eh bien oui, mais c'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on ne peut pas contaminer son prochain.
Ça, je dis pas le contraire, mais dans la mesure où les autres sont déjà vaccinés,
mais les autres, les autres, pardonnez-moi, pour le moment, il faudrait vérifier les chiffres. On est à peu près à la moitié des vaccinés en deux doses. Donc les autres, c'est quand même, en gros, l'autre moitié des Français. C'est pas seulement quelqu'un au coin d'une rue. Donc pardonnez-moi, même si vous êtes asymptomatique, vous avez quand même un fort pouvoir de contamination. Donc c'est normal que les pouvoirs publics ne soient pas, comme vous dites, alarmistes, mais tirent la sonnette d'alarme et qu'ils mettent effectivement un accent, et un accent encore plus grave, dans tous les sens du terme, renforcé et grave, en termes de vaccination, puisque l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés était prévu de mémoire fin septembre et ouais. qu'il est avancé d'un mois. En tout cas, il est avancé d'un mois. Donc je pense que le gouvernement a tout à fait raison, sans être alarmiste, au contraire.
Allez, on se retrouve à continuer à parler de cela dans un instant et puis on accueillera au 39-21 Patrice qui est infirmier libéral à Lyon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et c'est la suite de vos grandes voix ce soir avec Jeannick Halimi du Parisien, Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. Ça continue à discuter entre eux pendant la pub, hein, vous savez. Et vous prenez la parole, 39-21. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
C'est intéressant
Patrice,
de vous écouter. Vous êtes infirmier.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Oui. Vous m'entendez bien ? Vous êtes là ?
Oui, je vous entends. Oui, je suis là. Oui, je suis infirmier libéral depuis 20 ans dans
exactement.
Le secteur de Lyon 9e.
À Lyon, ouais, tout à fait.
Voilà. Vous et écoute. Moi, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, on nous a autorisé à vacciner dans mon cabinet, aussi bien les pharmaciens, les médecins et les sages-femmes. Mmh. Et depuis plus d'un mois, parce que depuis le 16 juin, on ne reçoit plus nos commandes de vaccins. On a même nos commandes qui étaient bloquées.
Ah ouais.
Et là, nous, on a vacciné des gens en début juin. Donc là, ça va faire 6 semaines qu'ils sont vaccinés. Et on fait quoi ? Ils ne vont pas avoir leur deuxième dose. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi ce chaos, quoi.
Donc, ici, je pense que personne ne pourra vous répondre. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai sujet, Jeannick.
Non, mais pardonnez-moi, monsieur. Officiellement, il n'y a pas du tout de problème de dose
au
quantitative
ouais.
ni de distribution. Et alors, je vous prie de m'excuser, vous, théoriquement, vous vous adressez aux pharmaciens, non, pour avoir accès aux doses ?
Ah oui, mais tout à fait, on a fait des commandes. Là, ça fait plus d'un mois que les pharmaciens ne peuvent pas commander sur notre secteur. Et donc, là, on a eu une commande qui a été faite il y a plus d'une dizaine de jours. Je devais recevoir des vaccins hier et on n'a rien eu.
Et c'est quel vaccin, donc, monsieur Pfizer ou...
C'est le Moderna.
C'est le Moderna. Et quelle explication on vous donne, monsieur ?
Aucune.
D'accord.
Aucune. Les commandes ont été bloquées, on ne sait pas pourquoi. Moi, les pharmaciens sont dans la même panade que nous, puisque eux, ils attendent des doses pour leurs patients aussi. Mmh. Et puis là, ce qui est embêtant, c'est qu'on aimerait bien terminer les vaccinations des gens qu'on a vaccinés en juin. Et là, c'est un petit peu limite, parce que ça fait
bien
un
sûr,
mois qu'on n'a pas de réception de vaccins. Donc,
merci Patrice. On va regarder cela de plus près. Les équipes d'Europe 1 vont regarder cela. Merci à vous, Patrice, de nous avoir contactés depuis Lyon.
J'espère
merci.
Que ça va bouger un petit peu pour tout le monde. Ouais. Voilà.
Merci de votre appel. Justement, Jean Castex qui a annoncé un nouvel objectif de vaccination. L'objectif est d'atteindre 50 millions de primo vaccinés fin août. On peut y arriver, Raphaël Steinville ?
En tout cas, les moyens, notamment dans la communication, ont été pris ouais. pour essayer de convaincre l'ensemble des Français que la vaccination était nécessaire. Et avec comme renfort, comme marbre quasiment mis sur la tempe des Français un petit peu récalcitrants, ce pass sanitaire qui, dès lors qu'il sera vraiment mis en place, interdira un certain nombre aux Français d'aller dans un certain nombre de lieux. Mais c'est intéressant, tout ce débat, et notamment l'intervention de Jean Castex aujourd'hui au journal de
13h
de TF1. D'une certaine manière, il détricote un petit peu ce que le président
a
dit.
Ça,
c'est-à-dire qu'on était habitué jusqu'à présent à ce qu'il fasse le service après-vente de l'Élysée. Aujourd'hui, on voit très bien que le président est très très loin dans sa volonté, à défaut de rendre obligatoire la vaccination.
Il y a les exceptions maintenant.
Et là, il y a plein d'exceptions.
Ouais.
Et on voit que la gronde.
Ça veut dire quoi? Que c'est la porte ouverte à tous les abus finalement?
Je ne sais pas si en continuant ainsi à détricoter et à laisser des libertés toujours plus grandes, le pass sanitaire sera totalement opérant.
Ouais.
Moi, j'en vois des motifs de réjouissance parce que je pense qu'on allait très, très, très loin dans la restriction d'un certain nombre de libertés. C'est assez hasardeux comme démarche.
Là où je suis d'accord, avec Raphaël, c'est qu'on entend que le Premier ministre va intervenir, on se dit... ça va y aller fort, ils vont encore nous annoncer. Alors, effectivement, on est un peu étonné et M. Castex lâche plutôt du lest sur le pass sanitaire pour les adolescents, sur le pass sanitaire dont on disait qu'il pouvait être imposé pour les lycéens en tant que tels, pas par l'âge, mais par le fait de pour pouvoir entrer au lycée, tout ça, c'est pas vrai. Et puis, l'histoire aussi la problématique du contrôle du pass sanitaire par les cafetiers ou les restaurateurs. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais ils n'ont pas un pouvoir de police, ils ont un simple pouvoir de contrôle. Donc, ils lâchent du lest. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Raphaël, c'est quand vous parlez, Raphaël, de détricotage. Non, je ne pense pas qu'il détricote. Et on garde quand même le cap complet sur le fait qu'on met l'accent sur le pass sanitaire.
Il a
quand même écouté... quand même, tout de même, les doléances des parlementaires, de certaines professions, la colère dans la rue, quand même, également. Mais il garde le cap, il va mettre en place probablement le pass sanitaire et il met l'accent sur la vaccination tout chousse.
Allez, on s'arrête là. Merci à vous deux, Jeannick Halimi du Parisien, Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. Vos grandes voix ce soir sur Europe 1. Merci, belle soirée. Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le rappel info avec Sophie Tussaud, mais Europe Soir l'été, vous le savez, c'est aussi de la musique pour vous accompagner. Christophe Maé sur Europe 1.
Il y a du soleil, Christophe Maé, dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.